Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, c'est qu'en une petite heure à peine, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. Avant de passer à l'interview du jour, un petit point rapide que je voulais évoquer avec vous. Vous m'avez dit être intéressé par des contenus plus courts sur des thématiques choisies, un peu comme je le fais d'ailleurs dans les épisodes de réponse à vos questions. Alors le plus simple pour moi, j'ai une demande pour vous, ça serait vraiment que ceux intéressés par ces épisodes plus courts m'envoient sur Instagram des suggestions de sujets à aborder, des questions. Vous connaissez mon adresse, c'est au pseudonyme Pelaignau, P-L-A-I-G-N-E-A-U. J'attends vos suggestions et questions, ça m'aidera énormément à juste y répondre au mieux. Voilà, donc j'ai fait court aujourd'hui pour l'intro, on va passer à mon invité du jour. Directement et pas des moindres. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Philippe Bloch. Je vous dis tout de suite, préparez-vous à passer un très très bon moment. Philippe est sur tous les fronts, tous les projets. Il est entrepreneur, auteur, journaliste, conférencier ou encore même investisseur. Il a déjà eu au moins 5 vies. Cet Alsacien d'origine fait un stage aux États-Unis pour ses études et en revient complètement transformé. Il rentre en France, écrit le best-seller Service Compris, un succès sans précédent. Service Compris, c'est quand même plus de 500 000 exemplaires vendus, ce qui est assez improbable dans le milieu du management en France. Et il enchaîne ensuite sur une première expérience entrepreneuriale dans la formation. Puis, inspiré par les coffee shops new-yorkais, rentre en France et fonde le célèbre Columbus Café, avant même l'arrivée de Starbucks en France. Au-delà de ses traits d'humour hilarants, pour info, les dernières minutes de l'épisode sont à écouter absolument. Il nous raconte sa rencontre avec Howard Schultz, le patron de Starbucks. Elles sont juste mythiques, ces 10 minutes. Donc, au-delà de ça, j'ai particulièrement apprécié le fait que Philippe accepte de se confier avec beaucoup de sincérité sur les moments de difficulté, les échecs et doutes qu'il avait vécu durant les 10 années de l'aventure Columbus. Malgré le grand succès de Columbus, qui gère aujourd'hui plus de 2000 points de vente, l'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est d'ailleurs rarement le cas. Mais contrairement à d'autres qui ne parlent jamais de leurs coups durs, Philippe assume complètement ses erreurs et les innombrables soucis qu'il a eu à gérer. Malgré ses difficultés, Philippe a su garder, vous le verrez, un optimisme, une joie de vivre même à toute épreuve et nous livre dans cet épisode une vision de la vie que je partage complètement. Ne jamais regretter, cultiver ses rêves, vivre passionnément et décider tous les jours de son bonheur. Une belle leçon, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Bloch. Bonjour Philippe et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir. J'ai beaucoup réfléchi pour notre interview à comment j'allais la commencer parce qu'en fait j'ai remarqué que tu es quelqu'un avec au moins trois vies. La vie d'entrepreneur, la vie d'auteur, d'écrivain et puis la vie de journaliste. Donc je me suis dit mais par quel bout je vais le prendre Philippe ? Bon, je vais te dire ça. En fait, en creusant un petit peu parce que je fais mon homework, j'ai vu une phrase qui m'a interpellée. Donc en fait je me suis dit je vais commencer par ça.
Très bien,
cette phrase,
vas-y.
Je vais te la lire. C'est « Le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin ».
Ah oui, j'ai écrit ça.
Original, mais alors peut-être que c'est faux, hein, mais en tout cas, ça traîne sur le web.
Je revendique.
Très bien. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, tu as l'air d'être quelqu'un de très optimiste. En tout cas, tu le revendiques dans tes livres et ça se sent quand on te rencontre. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être optimiste ? D'où te vient cet optimisme ? Et qu'est-ce que cette phrase, simplement, en fait, évoque pour toi ?
Alors c'est marrant parce que il n'y a pas si longtemps qu'on me pose cette question. Pourtant, on me la pose tout le temps maintenant. Et pour une raison évidente, peut-être, En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. C'est que, comme tu le sais, j'ai écrit un bouquin. C'était mon premier bouquin sur ce thème de l'optimisme il y a déjà pas mal de temps. Ça fait 6 ans déjà, en 2013. J'avais jamais de ma vie réfléchi à cette thématique. Je m'étais jamais interrogé sur pourquoi éventuellement j'étais optimiste. Les gens me voyaient pas spécialement comme optimiste. Mais comme j'étais énervé par la dépression française qui m'entourait, je me suis dit, faut faire quelque chose. On en parlera peut-être après. Et du coup, effectivement, j'ai écrit ce livre, Ne me dites plus jamais bon courage, qui a pas mal marqué les esprits. Et du coup, j'ai été perçu comme quelqu'un d'optimiste à partir de là. Alors après ça, on me dit, mais est-ce que tu es né optimiste, etc. Je n'ai aucune idée, pour être sincère. Et j'aurais jamais de ma vie écrit un truc du style, le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin. Mais c'est finalement en réfléchissant sur ce bouquin, et puis un peu au sens de la vie, pourquoi on se lève le matin, effectivement, que je me dis que ça apparaissait comme une évidence. C'est une phrase que j'ai effectivement écrite, qui n'a rien d'original, et je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça. Mais je pense que je suis fondamentalement optimiste, parce que, on y viendra sans doute aussi, puisque tu as évoqué mes différentes vies de slasher, j'ai quand même vécu beaucoup d'emmerdes et de difficultés dans ma vie d'entrepreneur notamment, toutes surmontées, qui m'ont rendu absolument genre en béton recouvert de téflon. Si tu veux. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte, à part la santé, je ne te cache pas qu'il n'y a pas grand-chose qui m'affecte, et que je me dis qu'il n'y a rien de grave, fondamentalement. Donc par définition, et puis comme tu le sais, tu es une entrepreneur, l'entrepreneur est optimiste par nature.
Bah non, mais justement, pas toujours. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette phrase, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, c'est le concept de décision, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Décider de ce qu'on veut, de qui on est, c'est pas forcément évident, et décider d'être optimiste, en fait, c'est quelque chose qui m'avait pas forcément traversé l'esprit. Pour moi, en fait, c'était un peu inné ou pas, et en fait, t'avais la chance d'être optimiste ou pas.
Eh ben non, je crois pas ça. Moi, je crois que c'est la vie qui te rend optimiste ou pas, ou combattant ou pas, ou une personne heureuse ou pas. Et les difficultés te renforcent de manière absolument incroyable. Enfin, tu aurais pu citer une autre phrase que j'aime bien de moi. C'est horrible de dire un truc comme ça.
Fais-toi plaisir. Écoute,
c'est un truc qu'on ne devrait jamais dire. Non, mais j'adore foutre le bordel dans des interventions, notamment quand je fais des conférences et que je trouve que les gens prennent pas de risques, etc. Et alors que j'avais envie de défendre, tu sais que j'ai défendu tellement longtemps les valeurs de l'entrepreneuriat. En 4 mots, moi, j'aime bien dire que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerrit. Et c'est une formule qui résume à peu près la vie de l'entrepreneur. Et je trouve qu'en France, on est surprotégé dans tous les domaines. Et on s'aperçoit, quand on a véritablement été confronté aux emmerdements, au réel, à la vraie vie, qu'on peut surmonter à peu près n'importe quelle difficulté dès lors qu'il y a du rêve, dès lors que le rêve est intact et qu'il y a un projet partagé.
Ouais, c'est ça, qu'il y a une
donc,
vision.
Donc à partir de là, et tu vois que tu te construis, et qu'à partir de là, je vois pas beaucoup de... Je crois que ça devient définitif. C'est-à-dire quand tu sais que tu as vécu des tas de difficultés surmontées, ça devient juste un style de vie et après il n'y a plus de problème. Encore une fois, sauf les vrais sujets qui sont les trucs qu'on ne maîtrise pas, la santé, les drames personnels, etc. Donc oui, j'aime bien cette décision, cette idée de décision. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise façon de démarrer ensemble.
Est-ce que quand même, parce que le podcast s'adresse à beaucoup de personnes qui cherchent des conseils, est-ce que quand même tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent sur justement le fait d'être optimiste ou en tout cas de réussir à prendre cette décision tous les matins? J'imagine que c'est maintenant c'est inconscient pour toi, enfin tu le fais complètement naturellement, mais, mais est-ce qu'il y a des petits trucs, tu vois, que tu pourrais nous donner?
Peut-être pas des petits trucs, plutôt un grand truc. Tu sais que je déteste le mot petit, enfin, je sais pas si tu le sais, mais je combats arrêter de dire un petit café, un petit mail, une petite question, une petite vidéo, je ne supporte plus cet adjectif petit. Non, je crois que plutôt qu'un petit conseil, j'en donnerais peut-être, ou plutôt plusieurs petits. Moi, fondamentalement, je crois que c'est l'absence de projet qui rend pessimiste. C'est-à-dire, quel que soit le projet que tu veux faire. Oui, attends, tu connais le bore-out, la nouvelle maladie professionnelle du bore-out, c'est-à-dire l'emmerdement, qui n'est pas d'avoir rien à faire, mais c'est de faire des choses sans intérêt, sans motivation, de manière répétitive, sans reconnaissance, etc. Et je pense que la France, globalement, souffre d'un manque de projet collectif. Ce qui est fascinant, c'est mon deuxième bouquin s'appelait « Tout va mal, je vais bien ». Et j'analysais un petit peu cette France à deux vitesses qui est en train de s'éloigner l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les Français sont pessimistes. C'est pas vrai, ils sont ou qui n'ont pas le moral, c'est pas vrai, mais c'est que ils sont optimistes sur leur vie personnelle et très pessimistes sur l'avenir de la France en général.
Qu'est-ce que tu veux dire optimiste sur leur vie
personnelle? Non, mais les Français globalement vont bien. On n'arrête pas de dire que la France va mal, que les Français vont mal, c'est pas vrai du tout. Tu interroges les Français, globalement, ils sont optimistes sur leur vie, sur ils aiment bien leur vie, mais ils n'aiment pas la...
On a plutôt une bonne qualité de vie.
Elle est exceptionnelle, il faut quand même le rappeler. Quelqu'un me disait l'autre jour que la France est un pays. Un paradis peuplé de gens persuadés de vivre en enfer. C'est une bonne définition de la France, hein, très honnêtement. Et quelque part, je pense que l'un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est que tu as des gens qui vivent chacun dans leur monde sans projet commun, en fait. Et on voit chaque partie s'éloigner l'une de l'autre, ce qui explique peut-être en partie la crise qu'on vit depuis quelques mois en France. Et c'est pareil dans la vie en général, quand tu n'as pas de projet. La plus belle phrase de Jacques Séguéla, qui n'est jamais prononcée, et qui va te définir un peu cette idée-là que j'essaie de défendre en ce moment avec toi, c'est qu'on devient vieux quand tes regrets prennent le pas sur tes rêves.
C'est magnifique.
Et je trouve qu'en fait, c'est une bonne définition de vaincre le pessimisme éventuel. C'est que si tu commences à ne plus avoir de projet, si tu dis que demain sera à peu près la même chose qu'aujourd'hui, probablement pire, parce que les Français sont convaincus que demain sera pire qu'aujourd'hui, en plus, ce qui est complètement faux. Là, tu commences véritablement à ne plus savoir lutter contre ton pessimisme et le déclin. Enfin, donc les projets, quels qu'ils soient, tu sais bien comment sont les Français. Ils rentrent de vacances en septembre, ils disent c'est pas grave, je repars en décembre. Parce qu'il y a un projet de vacances, vacances ou autre chose. Quelqu'un sans projet ne peut que sombrer dans une forme de pessimisme.
Bah, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai tendance à aussi dire souvent que l'action, c'est le secret, c'est la clé du bonheur, tout simplement.
C'est pour ça qu'on multiplie tous les projets, tous en tant qu'entrepreneur.
C'est pour ça que finalement, entrepreneur, c'est souvent une bonne manière d'être heureux.
La question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est où trouves-tu le temps de faire ce podcast ?
C'est vrai.
Qui est juste génial, que j'adore, je l'ai écouté. Mais comment elle fait ? Bah, c'est juste que tu prends du plaisir, apparemment, je suis sûr, j'espère.
Mais c'est ce que je te dis,
et tu te rajoutes un truc en plus. Et puis tu vas encore trouver plus de temps pour faire d'autres choses parce que sinon tu vas manquer de motivation. Donc c'est ça la clé, c'est
exactement.
Le projet.
Quand on aime, on ne compte pas et puis on trouve le temps.
Multiplier les projets.
Juste au niveau de l'idée de multiplier les projets, et après on passera un peu plus à ton parcours, mais ça m'intéresse réellement. Comment tu fais du coup pour trouver des projets ? Comment tu sais d'où ça te vient ? Ça vient des tripes ? Comment tu as créé autant de projets ?
Moi je crois que je suis plutôt très intuitif, très curieux. Que je m'emmerde vite, c'est-à-dire une faiblesse professionnelle que j'ai eue. C'est-à-dire que même à l'époque de Columbus, dont on parle un peu ensemble, à la limite, la fin n'a pas été celle que j'ai souhaitée, mais pour autant, au fond, j'étais assez content de ne pas être condamné à ouvrir le 450e magasin un jour. C'est que je me suis dit, c'est same old shit, quoi.
Ouais.
t'as plus envie de faire le truc. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, à partir de là, j'ai pas eu tout ni de secret, ni rien de spécial, mais. Dès que je commence à deviner que je commence à m'ennuyer ou que j'ai plus l'énergie d'y aller, je me remets en cause et je vais fureter, je me balade. Je trouve beaucoup d'inspiration aux États-Unis parce que j'ai une espèce d'appétence réelle depuis toujours, depuis que j'ai fait ma coopération là-bas. Donc c'est plutôt en allant... moi, je bosse comme un fou, comme tous les entrepreneurs, mais je bosse vraiment beaucoup. En revanche, j'ai jamais vraiment le sentiment de bosser parce qu'il y a des moments où je lâche complètement le truc, je m'en vais et puis je vais fleurer l'air du temps.
D'accord.
Donc je me souviens, j'écoutais un des podcasts avec Augustin Pellemon, qui est un vieux copain que j'ai vu démarrer tout au début de Michel Augustin. Et c'était un peu son idée de chasseur de papillons. C'est formidable cette idée. C'est comme ça qu'on arrive à lutter contre la routine.
Complètement.
Mais il faut être curieux. Et ça, c'est un beau métier.
Bon.
C'est pas un métier, mais on peut en faire un métier.
Non, d'ailleurs. Mais complètement. Bah, non, mais alors du coup, écoute, j'ai envie de te parler de tous tes projets. J'aimerais quand même commencer par le projet d'écrivain, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, pas encore Columbus, on va y venir, je te rassure.
Non, non, mais on n'a pas besoin. Hein. On va où tu veux.
Je te remercie. Mais, l'écriture, c'est un truc qui me fascine un peu parce que je trouve à la fois que c'est un magnifique projet, probablement l'un des plus beaux qu'on puisse faire. En plus, c'est pérenne, c'est gravé dans le marbre, donc du coup, ça fait un peu peur. Mais d'un autre côté, c'est horriblement difficile, je
peux
imaginer.
Ou pas.
Alors tu vas me dire. Moi, j'aurais peur vraiment de trouver ça très très difficile.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton premier livre ?
Bien
Parce
sûr.
Que si je me trompe pas, tu venais pas d'une famille particulièrement
d'écrivains. Non, d'un père qui adorait les bouquins. Alors lui, un fan absolu. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur qui est très malade, qui a l'intégralité de la Pléiade et qui ne supporte pas l'idée, même en étant très malade, que le dernier ouvrage, il n'est pas dans sa bibliothèque.
D'accord.
Donc j'ai eu un père qui adorait les bouquins. Moi, j'ai assez peu lu en fait. Bizarrement, je devrais pas dire ça. Mais en fait, il m'est arrivé un truc. Je vais t'expliquer pourquoi j'écris ce premier bouquin très jeune, parce que pour un best-seller, parce que
on parle
de 500 000 exemplaires, donc c'est le truc
c'est
de dingue.
C'est énorme, et en plus pour un bouquin de management, enfin c'est quand même assez rare de.
Oui. Alors voilà. Alors, tu vois, le truc très simple. ESSEC, 2 ans aux États-Unis en coopération.
Qu'est-ce que tu fais en coopération aux États-Unis?
Je suis payé par l'État. Je...
Très bien.
ne le dis à personne. Okay. Il y a prescription. La coopération n'existe plus, donc c'est pas très grave. Non, ville formidable qui t'ouvre au monde à un moment où on voyageait un peu moins qu'aujourd'hui. C'est quand même le début des années 80, etc. Et en fait, je pars 2 ans et je passe ma vie dans les librairies américaines. J'adore le business. Je regarde un peu les trucs. Et quand je rentre en France, j'ai un choc culturel. Je m'aperçois ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que les Français à l'époque, même si ça n'a pas beaucoup changé, n'était ni très souriant ni très serviable. Et du coup, je me dis, il se passe un truc, pourquoi est-ce que les Français sont si peu agréables quand ils sont à ton service, en fait. À l'époque, je rentre à l'Expansion, complètement par hasard. L'ex-leader de la presse économique française, qui est mort, on l'oublie un peu, mais leader pendant 50 ans,
oui, c'était leader
1967-2017, et il n'a pas su se réinventer.
Incroyable.
parce que toi et moi, on s'informe aujourd'hui différemment,
ouais.
Et il n'a pas su se réinventer. C'est une grande leçon de vie que m'a apprise Jean Boissonnat, qui était le rédacteur en chef. qui nous disait à l'époque, c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Mmh. Et je crois que c'est un des messages clés qu'il faut adresser aux entreprises aujourd'hui. Donc je rentre à l'expansion, figure-toi, pour développer un projet télématique. À l'époque, on appelait ça télématique, télé-expansion, l'information en ligne. Tu te rends compte?
Incroyable.
C'était l'époque du Minitel.
Oui, c'est ça, c'est le Minitel.
Et du coup, ce projet ne se fait pas. Il était un peu en avance sur son temps. Et il me nomme éditeur du magazine, ce qui était un truc de dingue parce que je m'occupais donc de tous les titres du groupe très jeune. Mais la nuit et les week-ends, j'écrivais ce bouquin. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose.
Les gens tirent la gueule à ce
moment-là. Ils font la gueule tout le temps, ils sont antipathiques, désagréables, pas serviables. Et du coup, j'écris un bouquin et je fais un truc fou. J'adresse un synopsis, enfin quelques pages du bouquin, à un grand monsieur qui était à deux pas d'ici où on se trouve en ce moment, Claude Durand, qui est le patron de Fayard, qui est une maison d'édition dont tout le monde rêve d'être édité chez lui, puisque tu vois un peu les coulisses d'un premier bouquin, c'est ce qui s'est passé.
Génial.
Et le gars me dit, j'avais pas écrit une ligne, et tout le monde rêve d'être édité par un garçon comme ça, et il me dit, je prends votre bouquin, j'adore le sujet.
T'avais pas écrit une ligne, tu lui envoies juste
trois pages, mais qui racontait des convictions, tu vois, parce que j'avais même pas rencontré de gens, c'était un bouquin très intuitif, peut-être que j'ai eu la chance très jeune d'avoir des bonnes intuitions, et il me dit, je prends votre bouquin. Et à ce moment, je suis un peu emmerdé parce qu'il faut que j'aille voir mon patron Jean-Louis Servan Chabert pour dire, Jean-Louis, je vous adore, mais je bosse beaucoup, hein, rassurez-vous, mais la nuit et les week-ends, je fais un bouquin, je continuerai quand même à bien bosser.
Ça se fait, non, c'est ce que je fais avec le podcast, donc tu sais, ça marche.
Exact, tu étais toi aussi, j'étais déjà un slasher.
Voilà.
Et il me dit, c'est une super idée, mais n'allez pas chez Durand, c'est pas un bon éditeur, je veux l'éditer ce bouquin. Je dis, merde, ça me ferait beaucoup de peine que vous veniez pas chez moi. Donc tu vois, j'étais un peu coincé entre mon patron, Durand. Et puis du coup, on a signé avec, c'était une coédition, l'expansion Hachette-Lattès. Et puis j'ai écrit le bouquin pendant un an et demi, deux ans. On a rencontré une soixantaine de grands patrons français de l'époque.
Oui, c'est ça, tu t'es quand même informé. Parce que moi, ce qui me fascinait un peu, c'était le côté, tu sors d'école, tu connais quand même pas grand-chose.
Non, mais le bouquin était à l'américaine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de bouquins qui étaient des bouquins sympatoches. Tu avais des bouquins de profs d'école de commerce, un peu chiant. Alors, c'était très, très, beaucoup plus intelligent que le mien. Nous, moi, j'étais considéré comme de la littérature de gare, tu vois. C'était l'insulte suprême. Sauf qu'effectivement, le bouquin, du coup. Oui, parce que la première année, 100 000. Alors, ce qui était très marrant. Anecdote rigolote, et comme quoi il faut motiver les gens, surtout les remercier. Tu sais, quand tu écris un bouquin, si un jour t'en écris un, tu vas devoir passer par là, c'est que tu as un pitch à faire devant les vendeurs de la maison d'édition.
D'accord,
c'est-à-dire que très important, une fois par mois, les vendeurs réunissent les auteurs, etc. Et ils doivent présenter le pitch pour qu'ils aient envie de vendre au libraire. Et je leur avais dit, bon, les gars, j'avais 26 ans, les gars, on va faire 100 000 exemplaires d'ici un an. Et ils étaient 45. Et je leur ai dit, de toute façon, il me croyait pas. Il dit, bon, pas de souci. De toute façon, si on le fait, je vous invite tous à dîner chez Taïwan. C'est-à-dire, j'avais même pas les moyens d'aller chez McDonald's à l'époque, mais je leur dis, on va vous inviter chez Taïwan. Il dit, ouais, le gars, il est sympathique, etc. Et puis, au bout d'un an, on a fait 100 000 exemplaires et j'ai invité les mecs à dîner chez Taïwan. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils m'ont dit, vous savez, on édite les plus grands auteurs. On édite, je vais pas citer de nom, mais les plus grands auteurs. Personne nous a jamais dit merci. Et pour moi, c'était une parfaite illustration du bouquin, parce que le bouquin, si tu veux, c'était, qu'il faut bien s'occuper des gens pour qu'ils s'occupent de leurs clients. C'est très con hein, comme message, mais au fond, c'est ça qui est dans une simplicité totale.
Bah, en fait, si tu veux, tu étais juste en train d'implémenter dans ta propre vie ce que tu disais dans le livre.
Oui, enfin. Et puis ce qui est aujourd'hui un absolu truc que tout le monde sait, il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Mais c'était nouveau à l'époque. Et si tu veux, le bouquin, comme j'avais rencontré une soixantaine de grands patrons français parmi les meilleurs, c'est-à-dire des gars comme Gilbert Trigano qui avait fait le Club Med, des gens Claude Decaux, des gens fabuleux de l'époque, des Pierre Bellon de la Sodexo qui ont fait des empires
et
du
ça,
bruit, les Pélissons.
Comment tu les rencontrais? Enfin, comment
je pense que l'expansion aidait un peu parce que j'étais éditeur du magazine et puis j'étais pas journaliste, j'étais vraiment patron commercial du titre. Mais l'expansion, c'était à l'époque, c'était le lieu où passait tout le monde.
Puis c'est très haut de gamme, c'était très
ouais,
grand
et puis
patron.
C'était le centre. C'était ce que j'ai passé ensuite 14 ans, comme tu le sais, sur BFM Business. BFM Business a pris le relais après de l'expansion comme un lieu où toute la presse rencontre le monde entrepreneurial, etc. Donc, oui, ils m'ont reçu très facilement. Et puis j'ai écrit ce bouquin de manière intuitive la nuit, et puis il était plutôt sympatoche à lire, et du coup, à cartonner. Et c'est comme ça que le premier bouquin est né de manière un peu atypique.
Trop bien. T'en as écrit plein d'autres. On va pas pouvoir parler de tous les bouquins.
Certainement pas, non.
Mais déjà, un autre truc qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup les processus de décision et comment on se lance dans de nouveaux projets. Je me dis, quand t'as écrit un bouquin qui se vend à 500 000 exemplaires, il y a un moment donné où tu dis, le deuxième, j'ai un peu de pression. Est-ce que c'était le cas?
Bien sûr. Non, c'est pas une pression. C'est juste que tu te dis, je veux pas faire moins, quoi. C'est juste. Mais sauf que tu fais jamais. Il n'y a pas eu deux fois Bienvenue chez les Ch'tis. Je me souviens toute ma vie, d'ailleurs, encore une anecdote qui me ramène très en arrière, mais il y avait à l'époque une femme qui s'appelait Christiane Collange, qui était la sœur de Servan Schreiber, qui écrivait des bouquins très successful à l'époque, des vrais best-sellers, notamment des bouquins de femmes qui avaient un succès fou. Et je l'ai croisée, en fait, on a sorti nos deux bouquins en même temps, sauf qu'elle, elle avait une antériorité évidemment très forte sur ce sujet. Et je me souviens d'avoir croisé dans un couloir à l'expansion où elle bossait de temps en temps. Et je dis, alors, Christiane, c'est votre objectif? Elle me dit, oh, je sais pas, enfin, si je fais moins de 100 000, ce sera un échec grave. Je dis, quelle prétentieuse, celle-là, etc. Et en fait, quand le bouquin est sorti, je me suis dit que ça se reproduirait, mais ça se reproduit jamais. Ouais. Donc après, non, on a eu des beaux succès. Mais faut pas penser comme ça.
Bah,
ça te met une pression, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Un bouquin, tu le fais. Bon, je suis pas un auteur professionnel,
oui,
tu vois, je suis pas
plaisir.
Guillaume Musso, où je me dis, il faut que je fasse mon rating chaque mois, il faut faire mes 700 000. T'es content quand tu fais 100 000, ce qui est déjà très très bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un bouquin, d'abord tu le fais quand t'es énervé. Moi, j'étais trop souvent énervé.
J'allais te demander pourquoi t'écris, en fait.
Bah, j'ai toujours été énervé chaque fois. Non, mais c'est
t'as
ça.
T'as pas l'air pourtant.
Non, mais quand je suis énervé, j'écris. Le deuxième, il était plutôt, on va presque dire, pas alimentaire. C'était un bouquin sur le changement. Et du coup, c'était un peu la prolongation de Service Compris 3-4 ans après, qui a bien marché aussi. Le bouquin sur l'histoire de Columbus Café, Bienheureux les Fêlés, c'est que j'avais envie de raconter l'histoire d'une entreprise difficile qui avait survécu dans l'adversité avec bonheur. Donc ça, c'était une envie de partage. Ne me dis jamais pourquoi, j'étais énervé. Tu vois, les Français déprimés parlaient toute la journée de conneries, de ça ne marchera jamais, c'était mieux avant. C'était l'envie de changer un peu les choses. Puis comme tu le disais, le bouquin, ça laisse une trace, en fait.
Ouais.
Tu vois, tout à l'heure, j'ai reçu un mail tout à l'heure de quelqu'un qui me dit, je vous écris parce que en 86, tu vois. Tu t'es pas né. Le premier bouquin, j'avais adoré votre bouquin Service Compris, je l'ai offert à tout le monde, on ne le trouve plus, où est-ce que je peux l'acheter? Et le mec me racontait des histoires du bouquin que moi j'ai oublié, et c'est 30 ans plus tard, tu laisses des traces.
Incroyable.
Et je reçois
puis
des
ça
mails.
Ça se revisite en plus avec un œil nouveau avec les années.
Et c'est... puis les gens viennent vers toi, parce que la magie aujourd'hui, c'est que avant, il y a encore 10, 15, 20 ans, tu pouvais pas contacter un auteur. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est contactable n'importe quand par n'importe quel média, donc tu crées un échange avec les gens. Moi, j'ai reçu des témoignages de gamins, d'adolescents sur le site, sur Bon Courage, des gamins déprimés qui disaient « Vous m'avez donné un sens, un truc ». Tu dis, même si tu n'en vends qu'un seul, t'as servi à un truc, t'as fait quelque chose d'utile, en fait.
Justement,
donc,
Bon Courage,
sympa,
qui est le livre,
ça.
Alors je t'avoue que je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire, sur l'optimisme, justement, enfin en tout cas, ceux qui l'ont lu t'ont taxé d'optimiste suite à ça.
Oui, tout à fait.
Une question que je voulais te poser, c'est notamment vis-à-vis de l'optimisme et de la création d'entreprise. Il me semble que tu dis à un moment dans le bouquin, mais donc je ne l'ai pas lu, tu m'as dit si j'ai une bêtise, c'est que pour vraiment bosser énormément et créer quelque chose qui marche, il faut aimer ce qu'on fait, tout simplement.
Sûr,
ça paraît assez basique. Mais alors j'ai une question, parce que c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question plutôt de créer des entreprises face à des opportunités. Et en fait, ils s'en fichent finalement du secteur. Est-ce que toi, tu as un avis fort là-dessus?
Non, j'ai aucun avis fort. J'ai une conviction personnelle, c'est que je serais moins incapable de vendre des poutrelles métalliques en ligne s'il y avait un marché pour les poutrelles métalliques, simplement parce qu'il y a un business à faire. Je saurais pas faire ça. D'abord, je sais pas faire des trucs que je comprends pas. Ça, c'est très bête. C'est d'ailleurs
et même si t'es amoureux du business, je veux dire de faire du business.
Non, oui, non. Enfin, pas moi, en tout cas. Je conçois pas que ce soit la bonne motivation. Parce que forcément, t'as un moment quand le projet te fait pas vibrer le matin. Je te dis pas que les muffins et le cappuccino me faisaient vibrer. Mais si. Non, mais si, parce que c'est pas ça qui me faisait vibrer. C'était de réinventer ce putain de marché des cafés français qui roupillait et qui était en train de mourir. Ça, c'était excitant. Et de créer un lieu, parce que c'était, il y avait une double motivation pour Columbus. Il y avait à la fois, ça, justement, d'implanter une nouvelle façon de créer un lieu de vie, qui était quand même fondamentalement nouveau. Je te rappelle que Starbucks, c'est en 94, quand j'ai lancé Columbus, il y en avait 200 dans le monde. Ils étaient uniquement en Californie. Aujourd'hui, il y en a 30 000 et ils ont complètement changé le mode de consommation de ces produits. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait surtout l'envie que j'avais, parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, j'avais zéro expérience quand j'ai écrit mon premier bouquin, mais toutes les convictions y étaient, je les avais jamais implémentées. Donc je m'étais dit, est-ce que je serais capable moi-même d'avoir des gars qui aimeraient leurs clients dans un métier compliqué, difficile, répétitif, pas forcément bien payé. Donc là, là je me suis éclaté. C'est-à-dire qu'il y a tous les matins, il n'y a pas eu un moment où j'ai pas été heureux d'essayer de me démontrer que mes convictions marchaient. Donc moi, je ne saurais pas, et c'est pour ça que je juge pas du tout les mecs qui veulent faire de l'argent pour faire de l'argent ou qui identifient un business.
C'est pas forcément même que pour faire de l'argent, mais il y a des gens, je pense, qui sont passionnés par le business et ils se fichent du fond, quoi.
Du produit, tu veux dire. Moi, je pourrais pas. Mais je juge pas, parce que je pense que de la même façon, il n'y a pas de bon et mauvais schéma pour réussir. T'as des gens qui font des boîtes merveilleuses, mais qui ont des sales crétins, qui n'ont aucune valeur. Et enfin, après ça, tout dépend où tu mets tes valeurs et qu'est-ce qui motive. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Et il n'y a pas de choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Il n'y a que des trucs. Enfin, fondamentalement, ma conviction, c'est qu'on est bien quand on est en accord avec ses valeurs et quand on prend son pied à le faire. Et quand c'est le fait pas, il faut vite se poser la question. Enfin, moi, je trouve que l'histoire de notre ami Séguéla, quoi. Il faut rien regretter. Les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. De s'obliger à subir sa vie. Enfin, En plus pour l'entrepreneur, alors oui, qu'on fait un choix douloureux quand
qui
même.
C'est déjà pas simple, ouais.
C'est juste pas possible.
Alors, entrepreneur justement, la vie d'entrepreneur avec Columbus. Bon, je sais que tu avais créé une autre boîte avant, mais j'aimerais.
Ouais,
même...
mais c'était une boîte pas forcément très excitante.
Bon, enfin.
Elle était efficace parce qu'on a gagné très bien notre vie. En fait, on a implémenté toutes les thématiques.
C'était du conseil, c'est ça?
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le bouquin a eu tellement de succès. La première année, on a fait 30 conférences, la deuxième 120. Donc les mecs ont dit, OK, c'est génial, mais comment on peut aller plus loin? Donc il fallait créer des produits. On a formé 300 000 personnes à la qualité de service. On a créé des vidéos dans tous les sens, des paquets, des trucs. Mais c'était pas mon truc. C'était beaucoup de conseils. Et en fait, je préfère faire que de faire faire. Donc, que d'apprendre aux autres. Donc c'était une boîte pas inintéressante, mais j'allais pas passer ma vie là-dedans.
Donc du coup, tu lances Columbus. Mais comment est-ce que ça se passe? Parce que comme tu dis, 94, donc sincèrement, c'est la préhistoire du monde du café.
C'est la préhistoire, bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que je commence un petit bout de burn-out, pas de burn-out au sens critique, mais de me dire, est-ce que j'ai envie d'être consultant pendant encore 30 ans? Non. Il se trouve que ma expérience américaine a fait que je suis tombé en amour, comme disent les Canadiens, avec à la fois New York, l'Amérique et puis une Américaine, new-yorkaise, que j'ai connue pendant ma copée, à qui on est mariés aujourd'hui, depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais on est ensemble depuis ce moment-là. Et à ce moment-là, j'achète un appart à New York, en 93, en me disant, j'aimerais revivre un peu comme un Américain pour trouver un truc qui me plaît. Et en général, à cette époque, c'était évidemment là qu'on allait chercher des idées. Je dis pas qu'on va plus les chercher aux États-Unis, mais t'as plus besoin de te déplacer pour voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et les bons concepts, on les observe en ligne, toi et moi, avec notre smartphone, à tout moment. Donc je me dis, je veux remettre dans une posture américaine. Et puis j'avais envie, j'en avais marre d'être, quand j'y allais, sur le canapé d'une copine. Donc j'achète cet appartement sur Columbus Avenue. Et en gros, 3 mois après, dans un tout petit bouclard qui s'appelle Cooper's Coffee, qui était magnifique en face quasiment de l'opéra, du Metropolitan Opera, je découvre un concept proche de Starbucks. C'était même pas Starbucks, parce que je te le rappelais tout à l'heure, Starbucks n'avait que 200 cafés uniquement en Californie à l'époque. C'est même pas encore traversé l'Amérique. Et je me dis, tiens, ce truc est génial. Je m'éclate, j'y vais tous les jours, je me découvre les cafés, la télé.
Et c'était le même concept. C'était tu te poses, tu peux prendre ton café.
C'était Starbucks, c'était une copie de Starbucks. C'est un New Yorkais qui a dit, on va pas laisser Starbucks arriver à New York sans qu'on soit là. Et c'était génial. Je prends les photos dans tous les sens, j'y retourne 15 fois par jour, j'espionne tout. Et puis je rentre, c'est ça que je veux faire. Et puis je dis, on va lancer Columbus, on va lancer le concept le plus vite possible en France sans rien connaître à ce business. Et c'est parti en 93.
Mais alors, du coup, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce que tu fais?
Alors,
il faut quand même de l'argent.
D'abord, j'en parle à mon associé qui dit j'y crois pas un instant.
Donc, ton associé qui était l'associé que tu avais à l'époque aussi dans l'autre business.
Oui, absolument. Et j'en m'en fous complètement qu'il y croit ou pas, mais je dis on va le faire quand même. Et à ce moment-là, il se passe un truc. C'est deux trucs marrants. C'est que je rencontre en fait un garçon qui bossait chez Starbucks, qui était à Paris, un Américain, qui dit qu'il voulait vivre à Paris, il avait pas de carte de séjour, etc. Et qui me dit qu'il pourrait peut-être nous aider. À partir de là, on commence à faire un peu savoir que le truc existe, on crée un peu le produit. Et je suis contacté par une ancienne, alors là, le truc absolument incroyable, par Dawn Pino. Dawn Pino, c'est une femme qui est incroyable parce que ça a été la première salariée de Schultz aux États-Unis qui a fait Starbucks. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a fait le premier cappuccino
La
première employée, c'est quasiment. Et elle a créé quasiment
du fondateur.
Elle m'appelle pour dire I love Paris. je veux vivre Saint-Germain, etc. Et est-ce que je peux travailler avec vous? Coup, elle nous a rejoint, mais pas tout de suite. Elle nous a rejoint un petit peu après. Et en fait, en un an, si tu veux, on avait, alors à l'époque, on avait un vrai sujet, c'est qu'on avait trop bien gagné notre vie, ce qui est une connerie, parce que quand tu gagnes
avec
trop d'argent.
C'est
qu'on gagnait très bien nos vies, mais quand t'es riche, t'es con. C'est-à-dire que tu prends des choix faciles et tu fais toutes les conneries du monde. C'est-à-dire que tu prends le meilleur architecte, tu penses que c'est le meilleur parce qu'il a fait la Fnac et Darty, alors que c'est pas du tout le bon pour toi.
Oui, donc vous décidez d'ouvrir un peu quand même en fanfare le truc.
On va installer une marque comme si c'était une multinationale américaine qui arrive dans un an. D'accord. Et on va Dragon Rouge, qui était déjà à l'époque une magnifique agence de design, qui nous crée le logo, qui avait déjà fait d'ailleurs la couverture de mon premier bouquin, Service Compris. Et on crée ce fameux ours qui est devenu le logo de l'enseigne, etc.
Et pourquoi l'ours d'ailleurs? J'ai des auditeurs qui m'ont posé la question.
Alors l'ours, je le raconte dans mon bouquin Bienheureux les fêlés, ça. Je vais te dire pourquoi. J'avais fait, parce que du coup, quand Starbucks a démarré à ce moment-là, il y avait plein de copies de Starbucks. J'avais fait quand même un petit boulot quand même de voir un peu tout ce qui se passe aux États-Unis.
Ah oui,
aux États-Unis. Mais j'avais pris un peu des copies de tous les logos de ces nouvelles chaînes d'espresso bar pour montrer un peu au fondateur de Dragon Rouge ce qu'était l'Amérique des espresso bar. On appelait plutôt ça un espresso bar. Et puis il nous propose 3 propositions. Je me souviens, il y avait une femme qui porte un peu genre une femme africaine qui portait un soleil, donc c'était sympathique, mais aucun
réinterprétation de la fontaine Starbucks.
Total. Il y avait autre chose dont je me souviens pas. Et puis il y avait cet ours qui était là avec Columbus Café autour. Ça s'appelait à l'époque Columbus Espresso Bar. Ça s'appelait pas Columbus Café au départ. Et intuitivement, j'allais vers ça, etc. Mais je savais pas pourquoi. Et en fait, ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ça, ce qui était extrêmement intéressant. D'abord parce que L'ours, il incarne un peu l'Amérique du Nord. C'était quand même une idée qu'on copie en Amérique du Nord. L'ours, faut pas le faire chier, globalement, en tant qu'animal. Et en même temps, c'est quand même, tu connais le nounours de notre enfance. Ouais. Donc, il y avait ce côté un peu, on va vous chouchouter, mais il faut, Starbucks, don't fuck with me, quoi, en gros, tu vois, c'était un peu ça l'idée. Et puis surtout, c'est le truc malin de la part de Dragon Rouge, c'est qu'il nous avait dit, regardez là, t'as 30 logos, t'as 30 tasses de café, sauf un, qui était la mermaid, la sirène de Starbucks, qui est le logo de Starbucks. Et il dit, comme par hasard, le leader est celui qui s'est créé en fait une identité forte autour d'un truc qui veut rien dire, globalement. Et tous les autres, il dit, si tu vas dans le café, l'univers du café, tu seras juste une tasse de café en plus dans l'univers du café, ce qui était évidemment stratégique. C'est pour ça qu'on avait pris des bons. Et c'est comme ça qu'est né l'ours. Donc à partir de là, effectivement, on les prend eux, on prend un super architecte, mais qui nous fait faire plein de conneries pour les deux premiers magasins.
Parce qu'il vous fait payer hyper cher ou parce
que
c'est pas
adapté. Non, il nous fait du grand optical, alors qu'il nous fallait un truc hyper cosy, etc. Il nous fait un truc. Donc on fait quelques erreurs, et puis l'erreur majeure, ne l'oublions jamais. Si on était dans le retail, il y a trois clés de succès, c'est l'emplacement. On se retrouve et là, la connerie historique, sans quoi je pense que j'aurais vendu ma boîte et au bout de 10 ans beaucoup très très facilement, c'est qu'en fait pourquoi on a raté notre démarrage. C'est qu'on a refusé d'aller dans des endroits, on a refusé de payer cher un bon emplacement. Parce que tu sais qu'à Paris, en France, en général dans le retail, tu payes ton droit d'accès. Enfin, tu payes soit un pas de porte, etc. Et qui est une connerie majeure. Mais,
qui est d'ailleurs une exception française une fois de plus.
Ouais, exactement. Sinon, il y a de plus en plus de loyers, ce qu'on appelle à l'américaine. C'est-à-dire que tu payes pas d'entrée, mais tu coûtes beaucoup plus cher. Nous, on n'a pas voulu faire ça. Et on a été empapaoutés par une boîte de centres commerciaux qui était en train d'ouvrir un très très bel endroit qui s'appelait le Passage des Princes, qui est en fait dans une galerie sublissime qui est en fait à Richelieu-Drouot, qui est maintenant en fait un village jouet club. Je sais pas si ça te parle, qui était
un très bel endroit.
Mais on était à l'intérieur, ils nous avaient imposé
à l'intérieur,
exactement, en disant vous allez être le point d'accès, le point d'accroche du truc, etc. À côté de la BNP, la salle des marchés, les mecs vont adorer New York, le cappuccino, café latte, tout ça, parce qu'à l'époque ça n'existait pas à Paris.
C'est vrai, quand même, t'as des bureaux dans le coin.
C'était pas con, mais c'était un désastre. Et parallèlement à ça, tu vois, c'est pour ça l'erreur majeure, c'est qu'au lieu de payer cher un endroit existant, on était allé gratuitement dans des endroits qui ne valaient rien. Donc à partir de là, le temps que le trafic se crée, on avait parallèlement à ça ouvert un magasin à Euralille, qui était une connerie, mais absolue, qui était le centre commercial entre les deux gares TGV de Lille. Ne me regarde pas avec des yeux de sanction comme ça, parce que ça payait très cher cette connerie. Et du coup, au bout d'un an, Euralille était complètement planté, parce qu'on ne savait pas du tout la clientèle, et on était tellement obsédé par l'idée d'aller vite, de ne pas se faire piquer l'idée, qu'on s'était dit on va
en
faire deux tout de suite.
C'est ça, où est-ce que vous alliez ouvrir?
On s'en foutait pas, mais on s'était dit c'est pas grave, on assurera. Sauf que c'était un business qu'on connaissait pas, c'est un business de chien, il fallait tout apprendre en même temps. Et au bout d'un an, les peu qui venaient adorer le concept, mais ils n'étaient pas suffisants pour qu'on résiste. Et à partir de là démarre l'enfer absolu. C'est-à-dire qu'on est à poil, on n'a plus un rond, on a des obligations.
Parce qu'à ce stade, t'as pas levé de fonds, donc c'est vos capitaux propres.
Oui, tout à fait. Et puis des emprunts, enfin quelques emprunts, etc. Et au bout d'un an, on se dit bon, l'aventure est finie.
J'allais te poser la question. Vous êtes arrivé à un moment où tu te dis on va peut-être devoir fermer la boîte. Quoi.
Ah bah tous les matins. Au bout d'un an, c'était cuit, c'était plié.
Parce que vraiment,
parce que les enjeux.
T'avais
une fois
combien
que
d'employés à l'époque?
On avait une vingtaine de personnes, non une quinzaine. On était 4 ou 5 au bureau, on avait une quinzaine de baristas, etc. Mais c'était pas ça le sujet, c'est qu'en fait, on pouvait plus tenir, on n'avait plus un rond. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait payer des loyers, les loyers étaient très lourds, etc. Et on voit bien que ça, les gens aimaient, si tu veux, mais il fallait tenir.
Frustrant.
Donc à partir de là, on s'est dit, allez, t'étais un bon consultant, un bon conférencier, arrête tes conneries, maintenant reviens à ton job. D'avant, sachant que je continuais malgré tout à faire des conférences parce que j'ai fait des conférences toute ma vie en parallèle de mes autres activités. Et en fait, ce qui nous a poussé, c'est nos équipes. C'est ça qui est génial. C'est qu'ils ont dit,
c'était
les mecs payés
et
au
vous,
SMIC.
Alors, j'avais une question à te poser aussi à ce sujet, c'est est-ce que tu communiquais, est-ce que tes équipes étaient au courant
toujours
que ça allait
de tout,
mal
de tout, pendant 10 ans. Ils étaient au courant de
tu
tout.
Tu leur dis au mec, tout. Là, on est sur
mais
le point de fermer.
Mais
et ils restent.
Mais bien sûr, non seulement ils restent, ils me disent, attends, t'arrêtes les conneries, t'as intérêt à t'accrocher parce que nous, on y croit. À partir de là, si tu te dis, tu n'écoutes pas des mecs payés au SMIC. Je répète, payé au SMIC, pas
oui,
tous.
Oui, c'est pas en plus des jobs.
C'est pas des mecs,
facile,
on n'est pas sur des mecs qui ont fait HEC et qui sont payés 30 000 euros du mois. Enfin, c'est pas ça du tout. Et tu dis, mais attends, tu te rends pas compte que les mecs qui viennent vous adorent. Enfin, je veux dire, adorent le truc. Et on se dit, bon, on va trouver une solution. À partir de là, tu fais de l'out of the box thinking dans tous les sens. Ben, on appelle ça pivoter aujourd'hui. À l'époque, on pivotait pas.
À l'époque, on trouvait des solutions.
Voilà. Maintenant, on pivote. À l'époque, on trouvait des solutions. Et on commence à se dire comment on fait. Et puis là, démarre une autre vie. Très, très.
Fermer certaines boutiques.
On ferme immédiatement Lille. On prend nos pertes. Et puis, on se dit, à Paris, on va continuer. On va faire autrement. Et on frappe à ce moment-là à la porte de la Fnac. Et on dit, on vous propose de gérer, de ouvrir des cafés, ce qui était évidemment dans une formule américaine.
Je me rappelle avoir vu ça.
Tu en as dû en voir, effectivement. Ouais. Et on se dit, allons. Alors, le pivot, c'était, on a un beau concept, mais pas de flux, allons vers le flux et amenons notre concept. Et on commence à ouvrir la Fnac Champs-Élysées, etc. Et on ouvre une 7-6-7 Fnac. On essaie des tas de trucs, des machins qui marchent pas chez les autres, comme ça, le temps d'essayer de continuer un petit peu. Et puis en 98, enfin, on revient de ce qui aurait dû être notre stratégie initiale. On s'installe rue Via du Temple. C'est là où il fallait qu'on démarre. Ouais. Si on avait démarré Via du Temple, t'avais toute la communauté du Marais qui passait leur vie à New York et qui, quand on a ouvert, le premier dimanche matin, t'avais 200 personnes pour venir manger des muffins faits sur place, etc. Et là, c'était le succès immédiat qui a permis ensuite de continuer à ouvrir des magasins, à lever des fonds. Et on a commencé à chercher des investisseurs à partir on en cherchait avant, mais on en a trouvé à partir de 2000.
Et cette période de vache maigre, elle a duré combien de temps? Quelques années,
non? Elle a duré tout le temps. Elle a duré 10 ans. Enfin, c'était 10 ans.
Toujours été la merde.
Non, Columbus a toujours été la merde, oui, bien sûr. Parce que même quand on a commencé à grandir, après, c'était d'autres merdes. C'est-à-dire qu'on ouvrait à un moment un magasin par mois sans avoir les ressources, ni les gens, etc. Mais on était sur des perspectives plus réjouissantes, si tu veux. Mm. Ce qui est compliqué, c'est là que je reviens sur l'idée d'un grand rêve. Moi, j'ai dit ça très souvent dans mes interventions, mais je pense que si j'avais pas été convaincu qu'on allait devenir un vrai truc qui allait pouvoir potentiellement être un leader de marché, j'aurais abandonné 1000 fois. Mais même quand tu vois que tu n'as que des emmerdes, que tu n'as plus aucune porte qui est ouverte devant toi, bah, la lumière continue à briller au bout du chemin, quoi. C'est pour ça que
ça, t'arrives à le voir parce que tes clients te montrent un intérêt énorme, même si t'as pas assez de flux.
Tes clients, tes salariés, tes convictions personnelles, l'évolution du marché que tu constates autour de toi, le fait qu'en Angleterre, ils ont pas fait nos conneries, ils ont démarré un an avant nous, et le gars, au bout d'un an et de 7 ans, il vend pour 100 millions d'euros sa chaîne de 60 bouclards à Starbucks, etc. Donc tu vois bien qu'il se passe un truc et qu'il y a intérêt à t'accrocher. Alors, j'avais une frustration à l'époque, pour ne rien te cacher, c'est que à partir des années, la fin des années 90, clairement, l'Internet était ce qui tous les fonds étaient en train d'aller vers l'économie internet
avant la
bulle. Et je m'étais dit, mais putain, je suis en train de m'emmerder à faire des cappuccinos.
Je suis en train de faire du retail,
à la con, du truc lourd,
truc
à la con.
Il n'y a aucune valeur ajoutée.
Alors qu'il est en train de là se passer un truc, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que sincèrement, à l'époque, si j'avais été libre, à ce moment-là, je serais allé vers des business plus d'actualité que celui-là.
Mais
je regrette rien. Oui, mais je regrette rien. Non, je regrette la fin. La fin n'a pas été sympa.
Bah alors, justement, si ça ne te dérange pas, j'ai bien toujours posé une question sur le podcast, sur les moments difficiles. Après, il y en a certainement.
Celui-là n'a pas été sympa. Oui, on peut y
aller. Mais j'ai cru comprendre, et je te remercie d'ailleurs d'être assez transparent, que ce soit dans ce podcast, et je sais que tu en as déjà parlé plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais donc que tu es révoqué en tant que président. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe et aussi, toi, quelles sont les émotions de frustration extrême, j'imagine, que tu dois ressentir à ce moment-là, quoi.
Oui, bien sûr. J'essaie de voir dans quelle heure de le prendre. Je te disais, en 2000, on cherche des fonds, on n'en trouve pas, hein, parce que globalement, personne s'intéresse à ce marché. Tout l'argent du moment va vers des valeurs Internet, etc. Le retail n'a pas le vent en poupe, etc. Starbucks n'est toujours pas là. On n'a pas encore démontré qu'on savait gagner de l'argent. On a 15 magasins. Bon, c'est sympa. On est allé au bout du bout du bout de nos ressources personnelles. On a donné tout ce qu'on pouvait donner en caution, machin, etc. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et on tombe sur, finalement, un investisseur qui a fait une jolie succès aux États-Unis. Pas forcément mérité par rapport aux enjeux, parce que sa boîte a été vendue très cher alors qu'elle valait pas un copec, mais bon, tant mieux pour lui. Du coup, il investit dans la boîte, on passe 2-3 ans ensemble à grandir vite, parce que du coup, on ouvre à ce moment-là beaucoup plus de le format classique du magasin sur rue, etc. Sauf qu'à un moment, en 2003, et je vais pas donner beaucoup de précisions là-dessus, mais je découvre qui sont mes vrais investisseurs et je ne les recommande à personne. Je découvre des choses qui sont pas forcément recommandables. J'agis, je vire une personne qui m'avait été imposée par cet investisseur comme directeur financier, parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait dans la vie qui était pas terrible. À partir de là, je suis dans la ligne de mire et il met un an à prendre le pouvoir et à me virer, à me révoquer en juin 2004 en associant mon associé de l'époque à ce départ, ce qui n'a pas été d'une loyauté absolue.
Mais ce qui doit être horrible. Enfin, ce
qui est difficile, c'est lorsque c'est ton associé qui demande ton départ au conseil d'administration.
Oui. Bah c'est ça, ça faisait 10 ans que vous bossiez ensemble. Quoi.
Beaucoup plus.
Tu réagis comment sur le coup?
Alors, si je me remémore cet après-midi-là, qui était le 24 juin 2004, c'est une date que je n'ai pas oubliée. Je me suis dit, putain, quand même, merde, tout cet effort
pour
ça.
Les mecs te convoquent ou...
Non, on avait en fait un conseil d'administration suivi d'un...
Tu t'attends pas du tout à ça?
Je m'attends à ce que les mecs soient un peu énervés, parce qu'à l'époque, on avait ouvert la Belgique avec 4 magasins, que c'était pas à la hauteur de nos attentes de personnes. Mais si tu veux, par rapport à ce qui s'était passé il y a un an, dans le conflit que j'avais géré, en prenant mes responsabilités de patron, en verrant d'une boîte un mec qui n'était pas à la hauteur de mon éthique, je savais qu'à un moment, je pouvais éventuellement... comme ils avaient le... Tu sais, le problème, c'est très simple. Hein, parce qu'il faut rappeler à tous les gens qui nous écoutent, en tout cas tous les entrepreneurs, tant que t'es à 50% plus une action, t'es peinard. Le jour où tu es à 50% moins une action, c'est plus toi qui dirige ta boîte. Et ils ont fait un hold-up légal. Enfin, je ne peux absolument pas reprocher à leur décision à l'époque, quels qu'aient été mes torts éventuels, que je ne vois pas très nombreux, mais en tout cas, je peux comprendre. Ils étaient dans le droit le plus absolu de me révoquer. J'étais président d'un conseil d'administration d'une société anonyme. Mais simplement, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire.
Donc, il te convoque.
Oui, il me convoque. Donc, on a un conseil d'administration classique et il me dit c'est pas la peine de rentrer au bureau, on a changé les serrures. Alors que tu vois, c'était propriétaire de mon bureau, alors c'était la boîte qui était locataire de mes bureaux dont j'étais propriétaire. Donc oui, non, c'est assez sauvage. Et du coup, le moment le plus bizarre, en fait, c'est que j'ai pris mon scooter. Je suis rentré, je te dis que j'habitais à l'époque pas loin de la rue des Martyrs. Je me gare sur l'église au bout de la rue des Martyrs. Mmh. Et je me dis, comment j'annonce ça à Robin, mon épouse? Ça fait 10 ans qu'elle me dit, tu te fais chier avec cette boîte en bas, on décolle pas, machin, etc. Bon, on avait 40 magasins, c'était pas mal, mais c'était quand même pas aux enjeux qu'on nous souhaitions. Et je me dis, tu sais, il y a un film avec José Garcia, je crois, qui à un moment il perd sa boîte, etc. Il tue sa famille pour pas avouer qu'il a été au chômage.
Ah oui,
t'as pas vu ce film?
C'est
un film qui est terrifiant où en gros il décide de tuer toute sa famille parce qu'il a honte d'avoir perdu son job, je ne sais pas. Et je me dis, bon, est-ce que je tue tout le monde?
Ça t'a pas traversé.
Ou est-ce que j'assume? Et je me suis dit, mais attends, finalement, attends, ça va être un peu dur, mais on va s'en sortir, etc. Et évidemment, je l'ai annoncé à Robin, qui l'a très bien pris, parce qu'elle est quand même formidable. Et au bout, franchement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas du bon là-dedans?
Mais ça a été important, le soutien aussi, j'imagine,
de
tes proches.
Ouais, moi, mon principal, ma principale, dans cette histoire, si tu veux, le plus frustrant, c'est la trahison.
Ouais,
le reste n'a pas d'importance. L'argent, ça me fait chier. J'aurais préféré 1000 fois parce qu'après, si tu veux, j'ai été dilué encore 2-3 fois. Donc, je reste actionnaire de la boîte. C'est une très belle boîte aujourd'hui. J'aime beaucoup les gens qui la dirigent. Ça n'a plus rien à voir avec les gens en question. Ni les propriétaires ont changé. Nicolas Richer qui la dirige, c'est un mec formidable. Mais la frustration, c'est la trahison. Quand tu donnes ton amitié, ta loyauté à quelqu'un et tu es trahi à ce point.
Vous avez compris cette trahison? Vous avez jamais eu de discussion?
Si, c'est de la jalousie. Si, j'ai compris. Tu sais, quand tu grandis pas pareil, c'est difficile. Quand tu t'associes à quelqu'un que tu connais, on s'est connu quand on était étudiant. Et du coup, c'est compliqué parce que les enjeux, les vies changent. Bon, enfin, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, c'est juste le problème d'une trahison qui est compliqué. Le reste n'a pas d'importance.
Combien de temps tu mets pour rebondir suite à ça?
Si je te dis des vacances d'été, tu me crois?
Bah, je te crois, évidemment.
Ouais, des vacances d'été, donc
hyper rapide.
Ouais.
Parce que tu dis, il faut que je trouve une nouvelle activité.
Non, même pas ça, non, parce que je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais parce que ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, parce que tu te dis que ça. Soit tu. Je veux dire, dans ce
type. Ça n'a pas d'importance
non,
pour toi,
si.
Mais objectivement,
non,
80% des gens
vivent
un truc comme ça. Il y a de l'ego aussi, tu vois. Il y a un moment donné
oui,
où tu te dis.
Mais quand
les
tu
gens,
as le sentiment d'avoir traversé la vie de manière éthique, tu t'en fous. C'est pas grave. Enfin, je n'ai trahi personne, j'ai fait de mal à personne. On a créé des jobs aujourd'hui, il y a 2500 jobs, etc. C'est pas le sujet. C'est plus que tu te dis, ça n'a aucun sens. T'as deux options face à ça. Soit tu te viens effectivement méchant, alcoolique, non mais tu vois, soit tu te dis. La prochaine aventure sera la plus belle. C'est la seule façon de voir le truc. Si toi, tu m'as interrogé au début sur ce qui te rend optimiste ou positif, c'est des choses comme ça. Une fois que soit tu es capable, et je pense que j'ai de la chance d'avoir été comme ça. J'aurais pu être dans l'amertume, dans la rancœur, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt.
Tu avais quel âge à l'époque quand ça s'est passé?
Écoute, j'avais, comme j'avais en 2004, j'avais 45 ans.
Et une question un peu indiscrète, mais tu n'avais pas une crainte, tu vois, c'est pas. Pas pareil de se réinventer à 45 ans et de se réinventer ou de s'inventer à 20 ans.
Cette question n'a jamais été un enjeu pour moi. J'ai le sentiment d'avoir 18 ans et honnêtement, c'est pas un enjeu. Je raisonne jamais comme ça.
Mais je pense que tu as raison, c'est ce qu'il faut. Mais je fais exprès de la poser parce que je pense que plein de gens ne raisonnent pas comme ça.
Pas doute là-dessus. Non. Parce que justement, j'ai le sentiment que tout est devant moi. Quoi. Enfin, tu vois, c'est maintenant que je vais commencer à me marier. Enfin, mais c'est une façon de voir la vie. Le bonheur, ça se décide.
comme l'optimisme. Bon, je voulais parler un petit peu de ton enfance aussi, on n'en a pas du tout parlé, je saute complètement du coq à l'âne.
Pas très intéressante.
Peut-être pas très intéressante, mais du coup j'aimerais comprendre un peu qui était le petit Philippe, d'où il vient, quelle était sa famille, je crois que tu viens de Colmar, c'est ça, on en parlait.
Très jolie ville chiante à l'époque, mais c'était devenu une très belle ville.
Et alors du coup, c'était comment la vie quand tu étais petit, t'as des frères et sœurs, pas du tout entrepreneurs du coup.
Si, c'est marrant parce que alors ma mère était graphologue. Et mon père faisait partie de cette génération qui acceptait de faire ce que ses parents te demandaient de faire quand ils avaient une boîte, ce qui est terrifiant. Enfin, pour moi, il n'y a rien de pire que d'obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. C'est terrible. C'est une boîte familiale qui avait eu des belles années début du siècle dernier, qui était du commerce de laine. Il achetait de la laine et il en vendait. Il y avait des notions textiles à l'époque, etc. Dans le monde entier.
Oui, dans l'Est, il y en avait pas mal.
Ouais. Et du coup, c'était un business qui était florissant jusqu'à ce que mon père, en gros, rentre dans cette activité. Et en fait, j'ai vu mon père toute sa vie faire un truc qu'il aimait pas, quoi.
Il était malheureux.
Toute sa vie. Il voulait être avocat. Il adorait les bouquins, plutôt intellectuel, etc. Il a fait cette activité qu'il a subi toute sa vie. Et en plus, dans des difficultés croissantes jusqu'à quasiment qu'il prenne sa retraite, à tel point que j'ai toute ma vie entendu maman me dire ne sois jamais entrepreneur, enfin, ne fais jamais ça, ne crée jamais une boîte, etc. Comme quoi,
Et toi, t'as jamais eu envie de participer à l'aventure familiale ?
Non, ça n'avait aucun intérêt. Non, moi, écoute, franchement, quand je dis que c'était pas très intéressant mon enfance, j'étais très heureux.
Mais t'étais quel type de personnalité ? T'es déjà assez extraverti comme ça ou c'est venu avec le temps ?
J'ai aucune idée, en fait. Moi, je me rappelle plus. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir commencé à vivre à partir de l'ESSEC, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je me suis un peu fait chier, clairement.
Tu n'avais pas assez de projets ?
Non, à l'époque, j'en avais assez peu. C'est vrai que j'en avais assez peu. J'étais un élève à peu près normal.
Et tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Tu savais ? Tu avais une idée ?
Non, je ne savais rien. Aujourd'hui, je sais ce que j'aurais bien aimé faire.
C'est-à-dire ?
D'être architecte.
Ah ouais ? Moi,
j'adore. J'ai une passion pour l'architecture. Et j'adore créer des lieux, imaginer des lieux, les réaliser, etc. J'aime beaucoup l'immobilier, j'adore ça. L'architecture était un truc que aujourd'hui, avec mon regret peut-être si j'en avais un, même si j'aime pas en avoir, c'est peut-être pas avoir été architecte. Non, j'avais aucune envie de rien, de spécialement. Et en fait, moi j'étais un peu long à m'amuser en fait. J'ai beaucoup rattrapé à New York. En fait. En clair, tu sais, les villes de province, enfin, petit vieux, mais dans les années 70 à Colmar, qui était un patelin quand même globalement. Ouais. Mon épouse est. Je te raconte une anecdote qui peut faire sourire aujourd'hui, mais mon épouse est afro-américaine. Elle me dit, mais t'avais pas de pote noir à l'époque ? J'ai dit, attends, Robin, il n'y avait pas un noir à l'époque ? Enfin, il n'y avait pas un noir dans la ville de Colmar dans les années 70. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est une ville absolument normale avec des gens normaux, métissés, etc. Et on ne se rend pas compte, mais les provinces dans les années 70, c'était quand même, on se faisait chier, quoi. Et du coup, après ça, et comme je savais que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire.
Pour toi, c'était évident que tu n'allais pas rester à Colmar.
Mais non, évidemment. Et puis, comme de toute façon, j'avais choisi plutôt de faire une prépa HEC parce que je m'étais dit, quand tu ne sais pas quoi faire, c'est le seul truc à peu près. J'étais nul en maths, donc il fallait bien que je fasse une croix sur.
Tu ne voulais pas non plus être prof.
J'avais pas d'appétence pour le business, j'avais d'appétence pour pas grand chose, pour être sincère. Et puis après, il y a eu la prépa où je me suis enfermé dans une chambre de 2 mètres carrés à l'internat pendant 2 ans à Strasbourg. Et puis après, il y a eu l'ESSEC, où là, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé à me marier à partir de là et que je me suis éclaté à partir de New York, c'est que j'ai été président de la junior entreprise de l'ESSEC et président des Mardis de l'ESSEC. Les Mardis de l'ESSEC, c'est moins connu, c'était une association qui existe toujours d'ailleurs, qui tous les mois invitait une personnalité à s'exprimer dans un débat qu'on a organisé.
Oui, je vois, c'est comme les matins d'HEC ou ce genre de choses.
C'est le même principe. Et donc j'étais président des deux.
D'accord.
Et comme par hasard, toute ma vie était faite d'entrepreneuriat et de communication, de médias, etc. Donc c'est vraiment l'ESSEC qui m'a façonné beaucoup plus que ces années colmarienne, dont je garde un très bon souvenir d'enfance, tu veux, mais j'ai souffert de rien, j'adorais mes parents, on était très bien, mais j'ai rien à te raconter de sexy.
Non, mais c'était pour comprendre, moi j'aime bien connaître le parcours vraiment de
la vie démarre.
La vie démarre à l'ESSEC.
La vie démarre à l'ESSEC.
Ils vont être contents.
Et elle s'éclate à New York.
Très bien.
Là, effectivement, tout se passe.
Bon.
Le vrai déclic, c'est quand même les États-Unis pour moi. À tous égards, pas personnellement, mais
parce que c'est là que tu as compris.
Ouais, c'est là que tu te façonnes un état d'esprit, en fait. Et ça m'a beaucoup changé.
Pour terminer le podcast, j'aime bien poser des questions un peu personnelles. Je te rassure, c'est pas trop personnel. Alors, une question que j'aime bien poser, que les auditeurs apprécient aussi, n'hésite pas à rentrer bien dans le détail, c'est est-ce que tu peux me décrire une journée un peu type de Philippe Bloch ? Alors, J'imagine qu'il y en a eu plein à toutes les époques. À la rigueur, moi, ça m'intéresse de l'avoir à l'époque Columbus, si c'est possible, parce qu'en plus, dans la période pas facile de Columbus, ça devait être quelque chose.
Ouais.
Typiquement, le matin, tu te lèves très tôt, tu dis que tu bosses énormément.
Elles sont longues, oui, elles sont longues. Elles sont 7 jours sur 7 depuis toujours. C'est assez bizarre de dire ça, et parce qu'effectivement, tu fais aussi.
Oui.
mais tout le temps, depuis toujours. Depuis toujours. À l'expansion, je bossais comme une brute. Mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup bossé parce que je me suis jamais emmerdé. Quoi. C'est un truc à la con, mais c'est vrai. Donc, du coup, globalement, une journée type, déjà à l'époque, c'est que je me lève à 6 h du matin. En général, je démarre à 7 h. Et je bosse en gros. Alors,
tu bosses dès le matin tout de suite, t'attaques.
Oui, alors je suis pas du tout sportif. Si tu me poses des questions
sur
le sport,
je vais t'en poser.
Je ne fais du sport que quand il fait beau et que c'est dans des endroits où je suis heureux d'être.
C'est-à-dire le temps, tu peux pas travailler en même temps, donc c'est difficile.
Non, mais c'est con parce que je sais bien à quel point c'est bon pour l'équilibre, mais enfin ça m'emmerde, donc je vais pas non plus me forcer. Par contre, effectivement, faire un jogging autour du réservoir à Central Park, je le loupe jamais, tu vois, mais aller courir de fin fond de la flotte parce qu'il faut que. J'aime les endroits beaux et.
Donc tu travailles tôt, mais tu ne fais pas de sport. Mais tu travailles.
Non, j'adore nager. Je joue pas trop mal au tennis, mais je joue pas beaucoup. Et puis je cours de temps en temps dans des endroits sympas où il fait beau. Donc tu vois, globalement, je suis pas sportif. Donc je suis pas le gars qui se pèle le matin, qui part faire le truc, etc. Donc globalement, non, j'attaque très vite. Moi, boum, à 7 heures. J'aime bien quand on est tranquille.
T'as un peu tendance à maintenant à l'heure un peu digitale, etc. À regarder toute l'information disponible, parce qu'en plus toi, quelqu'un de
alors,
du milieu de la presse,
moi je suis connecté.
Alors
moi j'ai à peu près 17 écrans devant moi en permanence. J'ai des chaînes américaines, des chaînes d'infos françaises. Je commence le matin par lire effectivement. Enfin, ça c'est aujourd'hui parce qu'à l'époque c'était pas en ligne.
Ce qu'il faut quand même que je dise, c'est que ton téléphone, donc je te remercie d'avoir mis en silencieux, il y a quand même eu, je pense, 40 notifications depuis le début.
Attends, je fais comme tout le monde. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai deux lectures à peu près obligatoires le matin, c'est les Échos et le Figaro en ce moment, plutôt les Échos qui sont pour moi essentiels. Ouais. Le reste, c'est toute une flopée d'alertes en permanence sur tous les sujets de prédilection, etc. Mais ça, c'est maintenant. Avant, effectivement, mais par rapport à la journée de Columbus, j'allais au bureau à 7h du matin, je passais 1h30 à peu près peinard, qui était la seule heure et demie peinard de la journée, à faire toutes les merdes que j'avais pas eu le temps de faire, et après je passais ma vie à gérer des merdes. Mais tu sais, je
opérationnel, quoi.
Ouais, je passais.
T'allais dans les boutiques, tu
oui, et je prenais des coups dans la gueule, j'allais tout négocier en même temps parce que je faisais tout. C'est-à-dire que je gérais les gens, il fallait chercher de l'argent, il fallait gérer les problèmes, t'avais des mecs qui t'appelaient pour dire qu'un tel était pas venu, il fallait on a quand même 250 personnes, il faut juste les gérer, c'était des gens pas faciles, etc. Donc tu commences à prendre des coups dans la gueule, mais ça c'est ce que je dis toujours sur le métier d'entrepreneur, ça consiste à importer des emmerdes, exporter de l'enthousiasme, qui est pour moi la bonne définition de notre métier de l'entrepreneuriat. Moi je suis une espèce d'usine de recyclage d'emmerdement en énergie positive, tu vois. Mais c'est le métier d'entrepreneur.
C'est vrai.
Et ça c'est ce que j'ai fait toute la journée, toute ma vie.
Il vaut mieux en tout cas quand on est entrepreneur, parce que sinon c'est un peu dur.
Ouais, mais si on n'a pas ça, on n'est pas bon. Enfin, on peut pas être entrepreneur quand t'as pas cette capacité. Tu sais, les gens me croient pas, mais je devrais pas dire ça. De toute façon, Robin, elle écoutera pas. Non, mais Robin n'écoutera pas
je
le podcast. Non, non, mais Robin, j'adore mon épouse. Elle a d'immenses qualités. Elle a une légère faiblesse. C'est qu'elle parle pas bien français. Elle est incapable de lire en français. Donc, elle a jamais lu aucun de mes bouquins. Je m'en fous complètement. J'ai pas d'égo là-dessus. C'est pas grave. Mais mon bouquin, Bienheureux les fêlés, que j'évoquais tout à l'heure, je racontais ces 10 années dans le détail. De manière très intime. Comment j'ai vécu chaque étape, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a bien aimé les gens, que les gens ont bien aimé dans ce bouquin, parce que ça permettait justement de vivre l'aventure de l'intérieur. Et elle l'a jamais lu. Et heureusement. Parce que j'ai eu cette espèce de chance incroyable quand je rentrais le soir au bureau, à la maison, de faire chier personne, de lui dire attends, tu sais, on sait pas comment on va payer le loyer, on sait pas comment on va faire avec ces chèques à la con qui se présentent.
Tu lui en parlais pas trop.
Jamais. J'en parlais jamais. Alors,
mais
elle a bien vu qu'on parlait un peu.
Quand même d'en parler à quelqu'un. Enfin, je veux dire, quand t'es entrepreneur et que t'es seul.
Je suis assez autonome, moi, là-dessus. Je suis une vraie, je prends des coups dans la gueule sans aucun problème. Alors, elle s'est bien aperçue qu'on allait un peu moins en vacances aux Bermudes et qu'on restait à Levallois, mais je veux dire, globalement, elle a bien vu qu'il y avait un micro-changement dans notre style de vie. Mais globalement, j'ai emmerdé personne avec ça. Et donc, c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup d'ennuis permanents. Assez peu de bons moments, parce que les bons moments, c'était quand on avait des résultats, quand on ouvrait des boutiques, etc. Je restais au bureau tout le soir jusqu'à 9h, à peu près à ce moment-là.
Les bons moments, tu les fêtes, toi, en général, ou pas trop?
Non, ouais, moi, j'étais très... oui. D'abord, moi, je prends beaucoup de temps. Je bosse tout le temps, mais je pars beaucoup. C'est-à-dire que, notamment, tu vois, je te parlais de New York, c'est un peu mon petit
ouais,
paradis.
Tu fais des vrais
breaks. Mon petit paradis, je me casse pendant 8 jours.
Et là, tu coupes vraiment ou tu as toujours
non, pas
17
du tout.
Francs ouais, c'est
non,
ça. Donc,
pas.
Tu pars physiquement,
non,
t'es pas là.
Je
mais...
coupe le plus important, c'est-à-dire à partir de midi. C'est ça qui est génial quand on est loin. Ouais. C'est-à-dire que je règle jusqu'à midi tous les conneries. Mm. Je réponds aux mails, les gens qui m'appellent. Et c'est là que 6 heures de décalage, c'est génial. Mm. Parce qu'après, tu as un midi,
libre.
Minuit qui est juste génial, où tu as ta vie sur place, loin de tout ça. Et là, je fais vraiment, et là, je coupe vraiment, et je vais me balader le nez au vent pour aller voir ce qui se passe, etc., rencontrer des gens. Donc ça, j'ai toujours fait. J'ai toujours, New York, j'y suis allé depuis 30 ans, tous les 2 mois, pendant quelques
ah
jours,
oui.
etc. Donc ça, c'est un peu effectivement, mes rythmes biologiques. Et quand puis sinon, mes parents ont la chance, enfin, je sens que mes parents sont en Provence, et que sinon, les week-ends aussi, j'ai toujours écrit mes bouquins en Provence, dans les oliviers, etc. Donc c'est des moments privilégiés, j'ai la chance de les avoir, qui me permettent d'encaisser plein de trucs. Et je suis un peu comme une cocotte minute, mais en fait ça
saute pas,
ça saute
plus.
Jamais parce que j'enlève en permanence de la vapeur en permanence, tu vois. Et donc du coup non, mais j'ai toujours été bosseur. Pendant 10 ans, si tu veux, le truc que Robin n'a pas bien compris, c'est que mais t'as bossé pendant 10 ans, 7 jours sur 7, les week-ends.
T'as pas envie de prendre,
samedis,
mais c'est ça normalement quand
samedis,
tu sors d'une
au bureau,
histoire comme
les
ça,
dimanches, j'étais au bureau.
Tu prends 3 mois off, quoi.
Non, mais tu sais ce qui s'est passé après en fait, c'est que je me suis dit, est-ce que je refais une boîte tout de suite ou est-ce que je fais autre chose? Et en fait, là, tu sais que BFM, j'ai démarré cette émission sur BFM Business pendant 14 ans, qui s'appelait l'entreprise BFM. Ils m'ont appelé pour dire, est-ce que ça tenterait d'animer une émission? Et puis, parallèlement, j'ai plein de gens qui m'ont appelé en disant, écoute, on n'osait plus trop t'appeler parce que t'avais l'air d'être un petit peu occupé. Viens un peu nous refaire des conférences sur tout ça. Alors, j'ai recommencé à faire ça. Et puis, j'ai retrouvé une vie différente avec plein d'activités parallèles qui m'allaient plutôt bien. Et du coup, après, ça s'est passé en douceur. Mais malgré ce passage en douceur, j'ai continué à bosser 80 heures par semaine.
Et le soir, en général, tu te couches à quelle heure?
Vers 1 heure.
1 heure, donc tu dors peu.
Pas assez.
Pas assez, tu le sens?
En ce moment, oui, un peu plus.
Ça se voit pas.
De plus en plus.
Ça se voit pas. Tu restes toujours aussi dynamique.
De plus en plus. Non. En ce moment, ce qui est assez crevant, si tu veux, c'est que quand même, depuis 15 ans, j'ai fait quand même 100 à 120 interventions publiques par an. C'est beaucoup.
Ouais, c'est
en plus du reste, parce que je fais un peu de business angelism, j'ai les bouquins, les machins, je suis éditeur de mes propres bouquins, etc. Et du coup, quand tu te prends toute la semaine, comme la semaine dernière, 4 jours de suite, un train ou un avion à 6 heures du matin, c'est ça qui est plus fatigant, en fait. Mais autrement, non, je dors assez peu. Je dors assez peu.
Une autre question que j'aime bien poser, rien à voir, mais c'est sur les mentors. Est-ce que t'en as eu des mentors?
Oui, à l'évidence. Clairement, Jean-Louis Serrant-Chavert et Jean Boissonnat, qui étaient l'un le fondateur de l'Expansion.
C'est ça.
Et l'autre, un journaliste hors pair, probablement le meilleur journaliste que la presse économique ait jamais connu, Jean Boissonnat, qui
m'a
malheureusement
décédé.
Et qui
ont été des mentors un peu officiels ou juste...
J'en ai eu plusieurs. J'ai eu pas officiels, dans quel sens tu veux
dire?
Non,
mais je veux dire au sens où tu les voyais avec une régularité, tu leur demandais
conseils. Oui, au fait, si tu veux, Jean-Louis, c'est l'homme qui m'a fait confiance. Moi, à 24 ans, il m'a confié la responsabilité commerciale de l'ensemble de produits du groupe, quoi, tu vois.
C'est énorme.
Un truc de dingue, avec une confiance absolue. Jean Boissonnat, qui était quand même un type incroyable, me permettait d'écrire parce que à l'époque j'écrivais un peu des conneries dans l'Expansion, en plus de tout le reste que je faisais. Et ils m'ont fait une confiance absolument inouïe. Et quand j'ai eu à gérer un truc assez difficile sur le bouquin, un service compris d'ailleurs, Jean-Louis m'a donné un conseil que j'ai jamais oublié. Je sais que c'est une question que t'aimes bien poser, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. Je sais pas si c'est le meilleur, mais celui-là a été incroyablement précieux. Je devais gérer une situation de conflit avec un co-auteur qui s'était incrusté dans le bouquin et dont je voulais me débarrasser en fait. Et c'était compliqué compte tenu de ce qu'était le personnage. Et du coup, il m'a dit, écoutez Philippe, je vais vous donner un conseil. D'abord, vous allez vous dire, vous n'allez pas lui dire, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On a tel problème, je te propose deux solutions, laquelle tu prends? C'est très con, mais c'est un changement absolu. Et deuxième qui m'a dit, et quoi qu'il arrive, vous ne quitterez pas la salle tant que le problème ne sera pas résolu. Et du coup, j'ai eu cette expérience incroyable, exactement comme ça s'est passé, où en gros, je lui ai dit, voilà, on a deux options, tu prends laquelle, sauf qu'il est parti. Et que du coup, je me suis dit, comment je fais? Je dis, bon, ça s'est pas très 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 bien passé, l'histoire de Jean-Louis.
Ouais.
Le mec est revenu une demi-heure après en disant, ok, négocions. Donc
ah,
du
ouais.
coup, ça s'est passé comme ça, c'était un bon conseil. Mais Jean-Louis était un homme exceptionnel, il est toujours, et Jean Boissonnat était, parce qu'on a besoin, il est décédé, un type exceptionnel. Et puis j'ai eu un mentor aussi, qui est un grand monsieur de l'architecture et du design américain, qui était un peu mon grand-père. Mes grands-parents sont... Mon grand-père était en fait un type que j'aurais adoré connaître, parce qu'il était un des tout premiers pilotes de l'histoire de l'aviation en 1914. Il a son brevet de pilote, c'est en 1962, je crois.
Incroyable.
Et c'était un des pionniers de l'aviation. Il a été descendu pendant la guerre dans un petit coucou en bois par les Allemands. Et heureusement, il n'est pas mort. Mais il a perdu l'usage de sa jambe. Et après, il a créé toutes les lignes aériennes. Il a été le patron d'Air France en Afrique du Nord dans les années 30. C'est-à-dire qu'il a créé en fait Air France en Afrique du Nord.
C'est incroyable.
C'est un monsieur d'exception. Et malheureusement, je l'ai connu comme un vieux grand-père, mais je n'ai pas profité de ça. Et j'avais un grand-père un peu américain, qui n'est pas un grand-père, mais un type exceptionnel, qui était un des plus grands designers américains, qui adorait l'architecture, qui m'a sans doute donné la passion de l'architecture. Et que je voyais avec un bonheur un monsieur très élégant avec son nœud papillon au Club 21 à New York où il m'emmenait, etc. Et c'était un type d'exception. Et ça, c'était un grand moment de ma vie d'avoir connu ce monsieur.
Est-ce que toi, à ton tour, je sais que tu es business angel, mais est-ce que tu es mentor ou est-ce que tu accompagnes des jeunes?
Je suis pas mentor officiel, mais d'abord, j'en accompagne plein. Et puis, il y en a plein. Tu sais, à la fois l'émission 14 années d'émission sur BFM Business.
C'est incroyable ce que tu as fait.
Ces rencontres avec tous ces entrepreneurs font que je reçois tout le temps des gens qui me disent est-ce qu'un avis, un conseil, un machin. Et tu sais, bizarrement aussi, on revient sur le bouquin et je te souhaite d'en écrire parce que c'est une superbe expérience et je suis sûr que tu en auras un talent immense. Tu n'imagines pas le nombre de boîtes que Bienheureux les Fêlés a permis de créer. C'est hallucinant. Le nombre de témoignages que j'ai reçus de gens qui disent j'ai lu votre bouquin.
C'est celui-là spécifiquement qui a le plus permis de créer des boîtes.
Ah oui.
Parce que ça a donné.
Parce qu'on racontait une vraie vie de que des emmerdements surmontés avec bonheur.
Juste après. Donc
je l'ai écrit. Je l'ai écrit un an avant de me faire virer.
Ouais.
Donc à l'époque, c'était pas prévu que la fin ne soit pas celle que je souhaitais. Et en fait, celui-là, la densité de l'expérience et la sincérité de l'histoire vécue de l'intérieur a permis à des gens, je peux t'en citer 150 de gens qui disent c'est ce bouquin là je sais pas si tu connais par exemple Chantilly,
elle est passée dans le podcast.
Chantilly, je l'ai découverte un peu par hasard, m'a dit drôle. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit tu es mon idole, le bouquin m'a donné envie d'entreprendre, etc.
C'est incroyable.
Et ça, tu peux pas le savoir, c'est ça qui est très très sympa et c'est arrivé 100 fois ce genre de truc. Je suis pas l'idole de personne, mais c'est complètement idiot de dire ça, mais le bouquin a beaucoup marqué les gens qui disaient il m'a donné envie d'y aller ce mec. Enfin pas
et
le mec.
Et pourtant
mais...
tu racontais pas que des histoires sympas.
Mais c'est ça qui est génial. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut, alors bien sûr il faut parler des succès, mais je pense que de savoir analyser ce qui marche pas, c'est absolument génial.
C'est sûr.
Et d'assumer
c'est ça.
Donc les mentors, c'est des grands messieurs comme ça, qui sont des gens bien. Et puis si pardonne-moi, je devrais pas l'oublier. Il se trouve que j'ai un oncle suisse, un horloger suisse qui s'appelle Raymond Veil, qui est malheureusement décédé aussi. On lui doit, s'il y a aujourd'hui 250 magasins Columbus, c'est grâce à lui, parce que il m'a énormément aidé au moment où... C'est lui qui a sauvé la boîte, en fait. Il y a deux choses qui ont sauvé la boîte. Il y a lui, financièrement, et puis il y a le procès que m'a fait Monsieur Schulz chez Starbucks.
T'as fait un procès, Schulz? T'as fait un procès?
Oui, il m'a fait un très joli procès.
Mais à quel,
parce qu'on avait déposé une marque qui s'appelle Frappuccino
au tout début
de l'aventure, et il se trouve qu'il était en test sur Frappuccino en Californie, ce que j'ignorais. Sauf qu'il m'accusait d'avoir volé la marque. Il m'a fait un procès.
Alors que c'était
c'était vraiment parce que tu cappuccino frappé quand on avait on avait déposé plein de marques, on avait déposé percolaté, plein de marques, etc. Et il m'a fait un procès en disant que je l'avais volé parce qu'on commençait non pas à l'énerver, mais il voyait bien qu'il se passait un peu un truc, etc. Ça a été une année hallucinante de combat, etc. Il l'a perdu parce qu'il a payé très cher cette connerie. Et en fait, au moment où la boîte allait très très mal, il nous a fait un très gros chèque qui a permis à la boîte de survivre. Donc en voulant nous tuer, il nous a aidés en fait, comme quoi
c'est
tu vois.
C'est très très drôle. C'est marrant. Tu l'as déjà rencontré ou pas?
Bien sûr, je l'ai vu là-bas, je l'ai vu sur place. Parce qu'en fait, je te raconte l'anecdote. Alors si on a encore deux secondes.
Bah, on a tout le temps.
Ce qui s'est passé, je te raconte tout. Je donnerai pas le chiffre parce que ça c'était confidentiel, mais je te raconte tout. Je reçois un coup de fil un jour d'un jeune anglais américain qui était à Londres, qui dit voilà, I work for Starbucks UK, etc. Donc, j'aimerais vous rencontrer parce que vous démarrez. C'était en 97 ou 98, je crois. Ça a duré un an, 98. Et j'aimerais vous rencontrer. Je suis stagiaire chez Starbucks à Londres. Avec plaisir, j'étais vachement flatté comme un con, tu vois. Je le reçois. On passe deux jours ensemble. On visite les magasins. Je lui montre les comptes. comme un crétin absolu. Et je lui explique ce qu'on fait. Et puis, à bout de deux jours, il parle. It was very nice meeting you, etc. Et il me dit, by the way, we sue you. On vous fait un procès. Il part avec comme ça. Il s'en va. Ouais. Deux jours après, je reçois du papier bleu, etc. qui me dit, on vous fait un procès pour contrefaçon, vol de marque, etc. Et on s'est dit, putain, merde, comment on va gérer ce truc-là ? Pourtant,
mais surtout, t'as pas d'argent, t'as d'autres chats à fouetter, quoi.
Non, puis surtout, payer des avocats, ça m'a coûté une fortune, un avocat, etc. Et du coup, ça dure quelques temps, etc. Et puis, je me bats, et puis on se dit, bah, écoute, on va pas voler, on prend un avocat, on fait des réunions, ça coûte chaque fois la peau des fesses. Je dis, merde, donc combien ça va me coûter à l'heure, chaque fois qu'on la voit, etc.
L'horreur.
Et on fait des allers-retours, etc. Et puis, à un moment, ils voyaient qu'on résistait, ils pensaient qu'on allait craquer tout de suite. C'est vrai qu'on était encore en mauvaise posture.
J'avoue que je sais pas si à ta place, j'aurais continué, parce que tu te dis quand même, quand t'as plus beaucoup de cash, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de
C'est-à-dire que comme on avait quand même notre bonne foi pour nous, ça vaut la peine. Si tu veux, à ce moment, tu veux dire, je vais quand même faire avoir sur un truc comme ça. Et alors, du coup, je commence à dire à un moment, ils étaient tellement insistants. Ils disent, écoutez, bon, ils voyaient qu'on insiste, qu'on était réticents et qu'on allait se battre. Et moi, pourquoi, éventuellement, pourrez-vous la racheter? Et je lui dis non, il est hors de question, etc. Et puis, il se passe un truc en septembre-octobre de la même année 98, où en gros, à l'époque, je te rappelle que Internet, il y avait moins d'infos qu'aujourd'hui accessibles à tout le monde. Et moi, j'avais beaucoup d'infos sur eux. Eux n'avaient aucune info sur moi, globalement. Et je me renseigne un petit peu sur la marque et je m'aperçois en fait qu'il y a des, des analystes qui suivent la valeur de Starbucks SBUX sur le Nasdaq. Et comme ils commençaient à m'emmerder sérieusement, parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils m'avaient... Je ne sais pas comment ils ont eu cette information. Ils avaient des informations personnelles sur moi aux États-Unis. Ils avaient essayé de démontrer que je ne pouvais pas ignorer, étant donné que j'avais un appart à New York dans telle rue. Et c'était donc des infos très personnelles, ce qui m'a profondément énervé, qu'ils observent ma vie personnelle américaine. Et je m'étais... C'était en octobre 98. Et parce que j'étais énervé et que la proposition qu'ils nous faisaient de rachat de la marque était insignifiante, je leur avais dit pas de souci. Et je les ai informé que le 1er novembre ou le 2 novembre, je serai à New York et je faisais une conférence de presse auprès des 8 analystes américains qui surveillaient la valeur américaine sur le Nasdaq et j'allais leur annoncer qu'ils ne possédaient pas la marque pour toute l'Europe parce que c'était une marque européenne avec un... Et il faut savoir que Frappuccino était distribué par Pepsi à l'époque et donc l'impact sur la valeur de Starbucks de ne pas avoir la capacité à distribuer Frappuccino en boisson était un peu emmerdant. Et là, ils m'ont dit, mais Philly, please relax, take it
let's
easy.
Talk.
Let's talk. Et alors là, le truc le plus drôle, le truc le plus jouissif, on était à l'époque avec le numéro 2 en contact avec, c'était le patron de l'international. Il s'appelait Howard aussi, c'était deux Howard. Et je lui dis, il me dit, let's see each other. Vous voulez pas venir à Seattle? Je dis, je veux bien. Mais moi, je veux bien, mais uniquement si je rencontre Schultz, parce que je vois pas les sous-fifres. Le mec était numéro 2, tu vois. Je refusais de le voir.
Mais c'est bien, tu planques le décor.
Je suis président, donc je vois le président. Je travaille pas avec les sous-fifres. Vous êtes numéro 2, patron de l'international. C'est très bien pour vous. Il me dit, pas de problème. On se verra ensemble. Avec Howard, etc. Et je vais à New York, à Seattle. en novembre, comme c'est prévu, et alors j'arrive un peu pétochard, tu vois, à l'arrivée quand même de ce grand immeuble Starbucks à Seattle qui était déjà un
c'est
monstre,
ça,
etc.
C'est ça, tu t'as fait genre, mais en fait, voilà, t'es complètement t'es terrorisé à l'intérieur.
Et je dis bonjour, I'm here to see Howard, l'autre, le numéro 2. Et la standardiste à l'accueil me dit, monsieur Schultz va vous recevoir. Je comprends pas, c'était pas Schultz, c'était Béa. Enfin bon, je comprenais pas bien. Et il me mène dans le bureau de Schultz. Et on passe une demi-heure ensemble. Tu vois, il était très cosy dans son canapé, comme ça, avec ses Gucci loafers, etc. Il me dit, alors, tell me about your life. Comme si ça, my life l'intéressait,
c'est
etc.
Clair.
Et on passe une demi-heure ensemble. Etc. Et puis, à un moment, il dit, je vous crois pas un instant, you're a motherfucker, I'm gonna crush you.
Ah oui, au tu milieu vois, de la
genre,
conversation.
Non, à la fin, c'était la fin, il dit, en gros, vous êtes un voleur, un voyou, un menteur, et je vais vous écrabouiller. Et il part, il se barre le mec, et il dit, mais il y a des gens ici qui veulent négocier. Et le mec se barre, et je me souviens, je suis sorti avec mon cartable, je l'ai suivi dans le truc, et il me dit, le mec est dingue, et il m'amène dans le bureau du numéro 2. Et je vois le 2, et il se barre, il me dit même pas au revoir, etc. Et je dis au numéro 2, this guy is crazy. Il me dit, no, he's very emotional. Je dis, oui, mais moi aussi, je suis très emotional.
Là, surtout maintenant, quoi.
Et du coup, il me dit, bon, bah, écoutez, non, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Il est un peu énervé, vous l'avez un peu énervé. Je dis, j'ai rien dit. Bon, bref. Et il m'a fait une autre proposition que j'ai refusée. Je suis rentré à Paris. Et on a passé 2 mois à passer des coups de fil. Et chaque fois qu'il m'appelait, le chèque augmentait. Et puis, il appelait, puis il disait, tu sais, moi, je l'aime de plus en plus, la marque. Et du coup, ça s'est dealé au bout de 2 mois et on a fini par vendre la marque en décembre. Comme quoi il faut se battre.
C'est assez exceptionnel. Je suis contente de ne pas l'avoir raté, celle-là.
Comme ça,
tu vois.
Il faut se battre.
Faut rester jusqu'au bout du podcast.
Je n'ai pas raconté beaucoup.
Eh bien, tu vois,
je
ça me fait plaisir.
Je n'ai pas raconté beaucoup.
Exceptionnel. Bon.
Donc voilà, mais comme quoi il ne faut pas abandonner. Enfin, on avait quand même on n'avait rien fait de mal. Et
ouais, c'est ça.
Le David contre Goliath, c'est du bullshit. Ça peut marcher.
Bah justement, c'est, ouais, c'est pas du bullshit, c'est top.
Non, ouais, ça peut marcher.
Une question quand même que je vais terminer par te poser parce qu'elle est, elle est importante à mes yeux, c'est les livres qui t'ont le plus marqué. Alors évidemment les tiens, mais
non,
si
bah
ça
non.
te va, je te
non,
propose
non.
quand même d'aller au-delà de
ouais.
tes propres ouvrages. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie d'entrepreneur, personnel, peu importe?
D'entrepreneur, oui, personnel, je réfléchissais un petit peu. Je te dis, je lis pas assez. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. J'ai pas de livre culte
D'accord.
de la littérature. Je lis des bouquins politiques, des machins, mais pas au point de faire perdre du temps à nos auditeurs. En tout cas, d'un point de vue, sauf que mon père m'a fait un bouquin récemment passionnant sur les arbres. Il y a un bouquin qui est un. Pourtant, il est tellement énorme et je le regarde maintenant. Il est très, tellement long à lire, très dense, autour du fait que les arbres ont une vie, que sont des êtres vivants. Je ne sais pas si tu en as parlé de ce
Oui,
bouquin qui
j'ai
est
vu, il y avait pas mal de pubs, je
ouais,
crois, à ce
énorme. C'est
sujet.
un succès considérable.
Ouais. Je
J'en suis à la
retrouverai
moitié. J'en suis à la moitié.
le titre.
C'est passionnant, mais il faut vraiment
D'accord.
s'accrocher. Mais c'est un bouquin passionnant. Moi qui adore, enfin, ma deuxième passion, c'est les arbres et les
D'accord.
jardins. J'aurais dû être architecte paysagiste.
Bah, tu vois.
Je créerais des lieux de vie. J'adore ça. Et du coup, ça, c'est un bouquin que je suis en train qui me passionne en ce moment. Mais non, les bouquins qui m'ont profondément marqué, en fait, c'est à l'époque où j'écris Service Compris, et encore une fois, tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais il y avait un bouquin culte dans le management, dans le monde, c'était Le Prix de l'Excellence, qui était écrit par un gars qui s'appelle Tom Peters. Tom Peters, c'était le plus grand
Alors,
auteur de
j'en ai
management.
jamais entendu
Et
parler, donc
pourtant,
c'est, je
écoute,
suis hyper
sorti
contente.
en 84,
Ouais.
In Search of Excellence, il a inventé le principe de l'excellence. C'est un des auteurs les plus vendus aux États-Unis depuis 30
D'accord.
ans en matière de management et de stratégie. C'était un type du BCG ou de je ne sais pas quel grand cabinet.
McKinsey ou un truc comme ça.
Un des plus grands conférenciers
Ouais.
américains. Un des mecs exceptionnels. Un type, c'est une grosse, 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 grosse star. Et son bouquin, en fait, In Search of Excellence, est sorti en prix de l'excellence en France en 85, un an avant notre Service Compris, qui était c'était le même type de bouquin, en fait. Et ce bouquin était un bouquin mais fondateur du management américain en matière d'excellence et de culture client, en fait. Après, il y a eu. Donc, ça, c'est un bouquin qui m'a profondément marqué. C'est une bible absolue. Après, il y a un très bon bouquin qui est Customers First, Employees Second, les salariés, les clients, les salariés d'abord, les clients, Customers First. Employees First, Customers
Ouais, c'est
Second, je
ça.
me souviens plus du titre français, mais c'est
Français.
un peu le même principe. Après, c'est pas des bouquins marquants, mais des bouquins comme le bouquin de Zappos,
Oui,
Delivering
Delivering
Happiness,
Happiness,
tout ça sont des bouquins
l'entreprise
qui
du
sont des
bonheur en
espèces de
français.
marqueurs un petit peu
Donc quand
que
même
j'aime
sur le
lire.
service.
Ouais, sur le management, sur le service, oui, sur l'entrepreneuriat, c'est ça. Et puis autrement, il y a toutes les biographies des grands Steve Jobs, etc., bien sûr. Mais le bouquin auquel je suis le plus associé, pour moi, c'est In Search of Excellence, parce
D'accord.
que il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Service Compris 2.0 au début des années 2010, sans savoir d'ailleurs, de la même façon qu'il avait écrit lui aussi un bouquin qui s'appelait The Little Big Things, The Little Books of. Attends, comment c'était ce bouquin? C'était pareil, c'était 300 idées simples mais fondamentales pour diriger une boîte. Et le bouquin était un peu sur le même principe. On a toujours eu des parcours assez parallèles en fait
C'est
avec lui,
rigolo.
beaucoup moins mondiaux, mais quand même des inspirations, ouais. Mes inspirations sont plus business, ouais.
Bah écoute,
C'est le
merci
bouquin.
beaucoup pour le partage. Je mettrai tout ça dans les notes, évidemment, pour les
Oui.
personnes qui nous écoutent. Et je retrouverai le livre sur les arbres
Oui,
parce que ça me dit quelque
je te
chose.
l'enverrai, bien sûr. Mais c'est un bouquin très beau, mais franchement, il faut s'accrocher.
Ouais.
Mais c'est passionnant. Et je pense que les arbres sont des êtres humains, oui. Non, non, je t'assure. Hein.
Il faut que je le lise alors.
Non, c'est un bouquin très profond.
C'est vrai.
Ouais, très profond. Qui est intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion
La
Ah
nature.
ouais, non, mais je plante tout le temps là, je plantais les trucs dans tous les sens.
Bah là, c'est la
Quand
saison.
on, non, mais moi, comme idée fixe, quand on abat un arbre, je pleure pendant 8 jours, je
Oh
te
là
jure,
là.
j'adore les arbres. J'aimerais qu'Anne Hidalgo fasse ce que le maire de New York a fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des conneries de trottoir, qu'elle plante 1 million d'arbres dans
Ouais,
sa prochaine
ça.
mandature, puisque malheureusement, je crains qu'elle soit encore l'an
C'est
prochain.
possible.
Mais ce serait bien qu'elle plante 1 million d'arbres, ou que quelqu'un les plante, parce que
Le message est
New
passé.
York a changé de visage depuis.
C'est vrai.
Ah, c'est génial.
C'est vrai.
Et tu sais que les arbres ont quasiment tout ce que je trouve une idée absolument extraordinaire, c'est qu'ils donnent à chaque personne qui naît à New York a son arbre.
Oui,
Enfin,
c'est vrai.
c'est juste génial, quoi. Quand tu sais que tu as ton arbre quelque part parce que tu es né dans une ville, c'est quand même
Ça t'ancre,
extraordinaire.
ça
Moi,
c'est
j'adore.
sûr.
Donc, les arbres, voilà, c'est une passion.
Bon, Philippe, un dernier mot. Est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer, une envie, voilà, quelque chose que tu veux dire aux auditeurs?
Ouais, on devient vieux quand les regrets prennent le pas sur nos rêves.
Celle-là, j'en l'aurais bien notée.
Ouais, non,
Merci, Jacques.
elle est tellement belle.
Elle est belle,
Elle
hein?
est
Ah,
tellement
c'est
belle.
pas mal.
Ce sera très bien de finir comme ça.
C'est magnifique. Où est-ce qu'on te trouve, Philippe, dans le monde du web?
On me trouve @philblock.
@philblock sur tout
Twitter.
Type de réseau, Twitter,
voilà, et puis Philippe
LinkedIn
Block.
Éventuellement.
Oui, bien sûr. Alors là, je ne connais pas le nom, mais enfin, on me trouve
Philippe
facilement,
Block,
bien sûr. Ouais.
Moi,
et puis philippeblock.com, c'est mon site
web. Très bien. Et acheter les livres de Philippe, messieurs, dames, je mettrai tout ça dans les notes. Merci beaucoup, Philippe.
C'est moi qui te remercie, Pauline. C'est un bonheur de le faire avec toi.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.